Bonjour, bienvenue dans La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach professionnel et praticienne narrative. Je vous livre ici un mardi sur deux un conte qui m'a inspiré, quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans l'épisode 3 de La vie est un conte. Le conte que je souhaite vous présenter aujourd'hui s'appelle Le bûcheron obstiné. Il est tiré du recueil Laisse-moi te raconter les chemins de la vie de Roré Boucaille. Il était une fois, deux fois, maintes fois, un bûcheron qui se présenta pour travailler dans un chantier de bois d'œuvre. Le salaire était bon et les conditions de travail encore meilleures. Aussi, le bûcheron voulut-il se montrer à la hauteur. Le premier jour, il se présenta au contremaître qui lui donna une hache et lui assigna un secteur. Plein d'enthousiasme, l'homme partit couper des arbres dans la forêt. En une seule journée, il en abattit 18. « Je te félicite, » lui dit le contremaître. « Continue comme ça. » Encouragé par ces paroles, le bûcheron décida d'améliorer son rendement le lendemain. Aussi, se mit-il très tôt au lit. Au matin, il se leva avant tout le monde et partit en forêt. Malgré son acharnement, il lui fut impossible de réussir à couper plus de 15 arbres. « Je dois être fatigué, » pensa-t-il. Et il choisit de se coucher en même temps que le soleil. Il se leva à l'aube, résolu à battre son record de 18 arbres. Cependant, ce jour-là, il ne parvint même pas à la moitié. Le lendemain, il n'en abattit que 7, puis 5, et enfin le dernier jour, il passa toute l'après-midi à essayer de couper son deuxième arbre. Inquiet de ce qu'allait dire le contremaître, le bûcheron alla le trouver et lui raconta ce qui lui arrivait, lui jurant sur tout ce qu'il avait de plus cher qu'il s'escrimait jusqu'à se sentir au bord de l'évanouissement. « Quand as-tu aiguisé ta hache pour la dernière fois ?» lui demanda le contremaître. « Aiguisé ? Je n'ai pas eu le temps. J'ai été trop occupé à couper des arbres. » Qu'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 pour préparer ma hache. Abraham Lincoln. Du fond de notre fauteuil, quand nous écoutons ce conte, nous avons le recul nécessaire pour voir toute l'absurdité de la réponse du bûcheron qui n'avait pas le temps d'aiguiser sa hache, trop occupé qu'il était à abattre des arbres. Cela me fait penser à un dessin humoristique bien connu où deux hommes préhistoriques s'échinent à faire avancer une charrette avec des roues carrées. Et un troisième leur propose des roues rondes, mais ceux-là répondent « Non merci, nous n'avons pas le temps ». Souvent, prendre le temps n'est pas perdre son temps. Que ce soit le bûcheron ou les deux hommes préhistoriques, on peut gager qu'étant totalement absorbés par l'action qu'ils sont en train de faire, ils n'ont pas conscience de cette absurdité. Voire, face aux problèmes qui se posent à eux, ils vont redoubler d'efforts pour faire un peu plus de la même chose. Notre bûcheron, face à son problème, que l'on pourrait résumer ainsi, « J'ai montré au contremaître que j'étais capable d'abattre 18 arbres, mais que depuis je n'arrive plus à en abattre autant. » Donc notre bûcheron décide de se coucher plus tôt le deuxième jour, mais le rendement décroît. Alors le troisième jour, qu'est-ce qu'il fait? Il refait la même chose, il se couche même encore plus tôt. Il se couche en même temps que le soleil. Dans les années 50, un rassemblement de psychiatres, philosophes et anthropologues du Mental Research Institute, établi à Palo Alto en Californie, a montré que la répétition d'une solution inopérante entretenait le problème. Et c'est ce que semble faire notre bûcheron. Il répète une solution qui ne porte visiblement pas ses fruits. Sa solution, c'est de se coucher plus tôt et tous les soirs il réitère cette solution bien qu'elle n'augmente pas son rendement. Bien souvent, sans s'en rendre compte, nous sommes comme ce bûcheron. Nous avons tendance à entretenir le problème, car quand une solution ne fonctionne pas, nous ne nous arrêtons pas pour nous demander si c'est bien la bonne solution. Nous persistons simplement dans nos efforts pour l'appliquer. C'est notamment le cas lorsque nous avons un problème récurrent avec une personne. Je vais vous donner un exemple peut-être plus familier que celui pris dans l'univers du bois d'œuvre. J'ai un collaborateur dont le travail ne me semble pas au niveau des attendus. Et donc, je suis obligée de repasser systématiquement sur ses écrits pour revoir ses formulations maladroites sans m'apercevoir qu'en faisant ça, en fait, je démotive mon collaborateur qui se dit que de toute façon, je voudrais faire à ma façon et que donc, pourquoi s'appliquer et passer du temps sur des écrits qui seront totalement modifiés par la suite. Aussi, mon collaborateur fait de moins en moins d'efforts pour formaliser et moi, je passe de plus en plus de temps pour corriger ses écrits, etc. Et ainsi, on rentre dans une danse sans fin tant que je n'aurai pas essayé une autre solution. Alors, regardons autour de nous et pensons à une personne dont l'attitude, le comportement nous exaspère, nous fatigue. Une personne que nous aimerions arriver à faire changer. Et regardons, observons comment nous nous y sommes pris. Avons-nous répété une solution qui pourtant ne donnait pas de résultat? Alors, pourquoi cette tendance à toujours faire un peu plus de la même chose? D'abord parce que nous sommes des hommes et des femmes de logique. Soit nous avons déjà rencontré un problème similaire dans le passé auquel nous avions trouvé une solution qui avait fonctionné, aussi nous répétons la même solution, même si le contexte a changé. Pour reprendre mon exemple, peut-être que j'ai dans le passé un autre collaborateur qui a amélioré son style d'écriture en apprenant de mes corrections. Alors, je répète pour ce nouveau collaborateur. Soit nous rencontrons un problème nouveau et nous avons identifié une solution qui nous paraît raisonnable. Et donc, nous l'appliquons. Si elle ne produit pas les effets escomptés, nous nous persuadons que c'est parce que nous ne l'avons pas appliquée suffisamment souvent, ou suffisamment fermement, ou suffisamment bruyamment. Et donc, nous réessayons. Donc, nous faisons toujours un peu plus de la même chose, d'abord parce que nous sommes enfermés dans une logique. Ensuite, parce que nous ne trouvons pas d'autre solution à appliquer. Je lui ai dit 100 fois, et le pire c'est que je vais continuer, même si ça ne produit pas d'effet, en pensant que ça finira bien par rentrer. Ou enfin, parce que nous pensons avoir essayé toutes les solutions. C'est le fameux « j'ai tout essayé ». Mais si nous regardons de plus près, et que nous posons sur le papier toutes les solutions mises en place, nous pouvons voir que tout recourt au même discours sous-jacent, qui peut être, dans notre exemple, « améliore ton style d'écriture, travaille mieux ». C'est le message que je passe à mon collaborateur quand je reprends systématiquement ses écrits. Quand, en entretien annuel, je lui demande d'améliorer sa communication écrite. Quand je laisse sur son bureau un livre sur comment mieux communiquer à l'écrit. Quand je l'inscris à une formation en ligne sur le sujet, etc., etc. Mes actions peuvent être légèrement différentes, mais le message de fond est toujours le même. Améliore-toi, travaille mieux. Repérer ce thème commun à toutes nos solutions permet de nous en libérer pour trouver quelque chose de différent. Notre bûcheron, au lieu de s'envoyer des injonctions du type « couche-toi tôt » pour être en forme, sort de ce thème récurrent lorsque le contremaître lui suggère implicitement d'aiguiser sa hache. Alors que pourrait représenter la métaphore d'aiguiser sa hache dans notre quotidien? Nous pouvons y voir une invitation à prendre du recul sur une situation pour l'analyser, ou prendre un temps pour développer ses compétences en se formant par exemple, ou tout simplement se reposer en changeant d'occupation pour prendre soin de soi et recharger ses batteries énergétiques. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi de vous permettre d'aiguiser votre hache en apprenant à vous sortir du cycle infernal du toujours un peu plus de la même chose dont je viens de parler. Ce toujours un peu plus de la même chose cristallise les situations problématiques et les rend de plus en plus difficiles à résoudre. Et donc, pour vous aider à sortir de ce cycle infernal, Je vais vous présenter une méthode en trois étapes tirée du très bon livre Comment réussir à travailler avec presque tout le monde de Lucy Gill. Prenez d'abord un temps pour observer votre entourage et vous dire qui dans cet entourage vous exaspère, vous paraît insupportable. Si vous aviez une baguette magique, qui aimeriez-vous changer? Ce peut être dans votre sphère personnelle, une belle-mère qui vous appelle un peu trop souvent, une tante qui ne peut s'empêcher de vous faire la leçon sur la manière dont vous élevez vos enfants. Ou alors, dans la sphère professionnelle, un manager qui fait un micromanagement, ou au contraire qui ne vous donne aucune directive dans vos missions, un collègue qui vous met en porte-à-faux en réunion, une collaboratrice qui s'attribue votre travail, etc., etc. Ce que nous allons voir ici n'est pas une baguette magique, mais une méthode d'analyse qui va vous permettre de sortir d'un cercle vicieux où plus vous insistez pour changer une personne, plus cette personne a le comportement que vous redoutez. Il ne peut pas y avoir de baguette magique car nous parlons de relations humaines. C'est comme un système ouvert en cybernétique. C'est une sorte de boîte noire où vous savez ce que vous mettez à l'entrée, mais vous ne savez jamais de manière certaine ce que ça va produire à la sortie. Mais une chose est sûre, si vous mettez toujours de la même chose à l'entrée, il y a bien des chances que vous ayez le même résultat à la sortie. Comme disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. La méthode s'articule en trois parties. La première consiste à réduire la taille du problème. La deuxième, c'est de repérer ce qui perpétue involontairement le problème. Et la troisième, c'est de choisir une nouvelle approche qui amènera le changement que je souhaite. Commençons par réduire la taille du problème. Quand nous parlons d'un problème récurrent que nous avons avec une personne, nous avons facilement tendance à mettre des étiquettes du type il est odieux, il est arrogant. Nous pouvons aussi généraliser, il n'est jamais content, il se moque toujours de moi. Nous pouvons nous étendre sur nos ressentis. Il me met hors de moi, je me sens stressée, j'ai l'impression d'être nulle. Nous pouvons nous perdre dans des suppositions. Elle agit comme ça parce qu'elle est jalouse et qu'elle aimerait bien avoir ma place, etc. Mais tout ça ne nous dit rien de ce qu'est exactement le problème. Pour amener les gens à changer leur comportement, nous avons besoin de savoir ce qui se passe, qui a fait quoi et non pas pourquoi il l'a fait. Nous allons chercher ici à nous occuper uniquement des faits. Quel est le comportement observable qui ne me va pas chez l'autre? Et pour cela, nous allons nous poser la question qui fait quoi, à qui et en quoi c'est un problème? Qui fait quoi, à qui et en quoi c'est un problème? Cette question est vraiment très importante. Nous nous centrerons sur le grief principal. Nous pouvons avoir une liste interminable de sujets qui nous ennuient à propos d'une personne, mais souvent, il y a un déclencheur, un élément principal qui, s'il n'existait pas, les autres points ne seraient pas si embêtants. Si je pouvais résoudre qu'un seul problème de la liste des griefs que j'ai contre cette personne et que je devais vivre avec tous les autres, lequel je choisirais? Nous pouvons essayer de répondre à cette question et l'écrire en une phrase. Qui fait quoi à qui et en quoi c'est un problème? Une fois que nous avons écrit qui fait quoi à qui et en quoi c'est un problème, nous pouvons vérifier si ce sont bien des faits, car nous devons être en mesure d'en faire un petit film dans notre tête. Se poser la question en quoi c'est un problème peut paraître limite provocateur. En fait, il s'agit de vérifier si nous ne sommes pas en train de nous attaquer à un problème qui n'existe pas, et oui, également de vérifier si c'est bien notre problème et qu'on ne nous a pas fait endosser un problème qui ne nous appartient pas. Maintenant que nous avons identifié le comportement insatisfaisant que nous voulons voir changer, nous pouvons passer à l'étape 2 en regardant cette fois ce que nous avons fait dans la relation, c'est-à-dire nos tentatives de solutions non opérantes que nous répétons et qui, du coup, involontairement, perpétuent le problème. Qu'est-ce que nous sommes évertués à faire pour amener la personne à changer? Et sous toutes ces tentatives, nous allons essayer de dénicher le message que nous donnions systématiquement. Il est essentiel d'identifier ce que nous avons fait avant de passer à la troisième et dernière étape, qui est de trouver de nouvelles solutions. Une des possibilités est de donner le message exactement inverse. Par exemple, quelqu'un qui passe beaucoup de temps à critiquer les décisions prises en réunion d'équipe et à qui nous avons essayé à maintes reprises de demander d'être plus constructif ou du moins d'être moins dans la critique systématique, on pourrait en début de réunion lui dire, après réflexion, sa perception critique peut être très utile et l'encourager à critiquer en lui donnant la parole pour le faire. Paradoxalement, le message étant totalement inhabituel, cela casse la danse dans laquelle nous étions entrés. Cette danse de plus j'insiste pour qu'il critique moins, plus il critique. Lorsque nous changeons de manière significative ce que nous faisons, nous n'offrons plus l'amorce permettant au même comportement pénible de démarrer. Mais peut-être que vous ne vous sentirez pas d'adopter un message aussi radical, et donc il y a d'autres façons de trouver une solution différente de ce que vous avez fait. Il peut être par exemple intéressant de regarder de près, de regarder s'il y a des moments où le problème ne se produit pas, ou alors se produit moins. Car il est tout à fait possible que dans ces moments-là, nous fassions quelque chose qui soit un barrage au problème sans même en avoir conscience. Autrement dit, nous avons déjà la solution. Une personne ne se comporte pas de la même façon avec tout le monde. Ça peut être intéressant aussi, là, de regarder avec qui le comportement insatisfaisant n'apparaît pas. Et ça peut être inspirant de voir comment les autres s'y prennent. Bref, trouver quelque chose de totalement nouveau à tenter demande de se creuser un peu les méninges. Ce processus en trois étapes peut être aussi bien utilisé dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle. En entreprise, si vous managez une équipe, cet outil peut aider par exemple à préparer un entretien annuel sur des objectifs comportementaux. Comment ne pas répéter année après année le même objectif qui n'est jamais atteint et tenter quelque chose de tout à fait différent? Voilà, j'espère que cet outil vous rendra service. Je vous retrouve dans 15 jours pour l'épisode 4 de La vie est un conte où nous parlerons d'un Maharaja et du donner-recevoir. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir est de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestunconte.com. À bientôt!